c'est l'occasion pour moi de vous dire que cette salle aura une vocation aussi de médiation culturelle pour la médiathèque, qu'elle a longtemps accueilli les tout-petits, qui aujourd'hui sont destinés à trouver des locaux à l'intérieur même de la médiathèque un petit peu plus adaptés quand même, à leur jeune âge en particulier, et aux différences thermiques qui peuvent de temps en temps sévir. En revanche, cette salle, elle, sera effectivement destinée à ce type de moments. Et je pense que beaucoup d'hommes et de femmes qui nous ont reçus dans diverses situations pour le cardinal pourront trouver dans cet outil, un jour ou l'autre, un moyen de communication intéressant. Étienne.
Oui, alors je crois qu'on va la famille Latry, descendant, pas du cardinal exactement, mais de la famille du cardinal, c'est ce qu'on a dit toute la journée pour rire, et va peut-être prendre la parole avec cet ordinateur. Et moi, pendant ce temps, je vais mettre mon PowerPoint sur une clé USB.
Parce que très bien. J'ai là, on fait comme à la veillée et c'est parfait.
Donc je laisse la parole.
Le
ici,
lieu s'y prête.
Parce que le but était. Rappelons-nous que nous sommes ici dans l'évêché de Bayonne, l'ancien évêché. Donc cette salle voûtée absolument magnifique et qui était collée aux remparts, puisque les remparts sont juste ici, en face de la cathédrale. Voilà, mais on va peut-être passer à la famille.
J'en profite aussi pour expédier, je dirais, les éléments, je dirais un petit peu plus protocolaires, même si ce n'est pas du tout dans l'esprit de la soirée. Je salue bien évidemment Monseigneur, qui nous fait l'honneur d'être là avec nous aujourd'hui. Son prédécesseur, Monseigneur Moller, qui est aussi présent. Nous y sommes très sensibles. Le recteur, Chypri, à Babil, qui est aussi avec nous. Ça, c'est pour les locaux, si je puis dire. Quant au... Et bien sûr, l'abbé Garatte, bien sûr. Quant aux responsables divers de la congrégation, ils auront l'occasion tout à l'heure, j'imagine, d'intervenir, mais je veux saluer en particulier celui qu'on appelait longtemps le supérieur et qui, aujourd'hui, préfère ce terme de responsable de la congrégation. J'ai passé un très bon moment avec lui hier, très édifiant aussi sur l'engagement autour du message du cardinal, qu'il m'a invité à lire, parce qu'il y a beaucoup à lire du cardinal. Merci aussi aux divers prêtres qui nous ont rejoints de diverses parties du monde. Et je pense aussi aux sœurs qui ont fait de même. Et on est très sensible à leur présence. Et j'ai pu palper hier de près, si je puis dire, la densité émotionnelle que pouvait représenter pour eux et elles le fait de se retrouver dans la ville natale du cardinal. Toujours impressionnant de voir qu'il y a, quels que soient les endroits où l'on ait pu travailler dans la vie, des attaches qui dépassent et de loin les frontières géographiques. Bayonne, le cardinal, c'est quelque chose qui compte, et en particulier tous les responsables de la congrégation et tous ses représentants que je salue ce soir. Je vais demander donc à un des représentants de la famille Latry de bien vouloir, dans des conditions que je comprends un tout petit peu précaires, mais on va y arriver, prendre la parole.
C'est bon.
Et de nous expliquer justement déjà les deux représentants de la famille Latry qui se passeront le micro tout à l'heure, de nous expliquer d'abord un tout petit peu où on en est, cet arbre généalogique, parce qu'il faut qu'on comprenne exactement de quelle façon vous vous retrouvez ici ce soir et à quel titre vous témoignez de cette appartenance à la famille. On vous écoute.
Oui, bonsoir à tous. Monseigneur, monsieur le maire, je vous ai aperçu tout à l'heure.
J'ai l'obligation de ne pas le saluer pour des raisons de réserve électorale. Croyez bien que ça me démangeait les lèvres depuis un moment. Vous le faites à ma place, c'est beaucoup plus utile.
Parce que je ne suis pas candidat.
Voilà. moi
je
peut-être.
Je ne suis pas candidat et encore moins à la mairie de Bayonne.
Bon, voilà. Qui va le rassurer définitivement.
Voilà, vous êtes tous rassurés. Je voudrais remercier de nous avoir invités. Alors, on parle depuis hier soir de la famille Latry. Effectivement, pardon, c'est le lien, c'est l'origine de notre famille, même si on ne porte pas le même nom. Hein, Le Cointe, c'est notre nom. On est présents quatre frères et sœurs. Les quatre frères et sœurs sont là. Donc Yves, mon frère aîné, qui va prendre la parole très rapidement. Et il y a ma sœur Claire et mon frère François. On est quatre, donc qui descendons directement des grands-parents de la Vigerie. C'est-à-dire que nous avons les mêmes ancêtres. Alors, du sang qui s'est dilué avec le temps, mais on a ce lien donc filial par son grand-père, qui était notre arrière-arrière-arrière. Bon, j'ai dû en sauter un grand-père. Mais on est tout petit par rapport à vous. On est tout petit par rapport à vous parce que depuis hier, et en échangeant avec vous, on a beaucoup appris, et on n'a pas grand-chose à vous apprendre, mais on a beaucoup appris sur quelqu'un dont on a entendu parler dans notre famille, et mon frère Yves y reviendra. Et puis, vous êtes les filles et les fils de la Vigerie, et nous ne sommes que des descendants. Voilà. Je voulais remercier aussi Stanley de nous accueillir, Michel et Cécile, parce que Michel et Cécile, on s'est vus il y a 8 mois pour préparer ce bicentenaire, et puis après, c'est eux qui ont fait le boulot. Hein.
Et quel boulot ?
Je tiens à vous le dire. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à être à côté de Yves, parce que on a l'occasion de se côtoyer en dehors. Et dans des activités, il l'a évoqué hier, et demain, vous serez accueillis dans un endroit pour le buffet qu'il a évoqué. On a l'occasion de se côtoyer de cette manière. Et une deuxième qui me tient à cœur, c'est que je fais partie d'une association dans les Landes qui s'appelle Adoura et qui a rénové une galupe qui circulait sur l'Adour. Et qui avait une vocation marchande. Et Yves est venu. Monsieur le maire n'était pas disponible ce jour-là. Et il est venu jusqu'à Saubus pour représenter la ville de Bayonne, puisque cette galupe s'appelle Bayonne. Voilà. Donc, concernant la ligne directe avec la Vigerie, donc, je l'ai déjà évoqué, on va intervenir en deux temps. Donc, là, je prends du micro, mais ça
très bien.
Hein
c'est très bien.
C'est la technique. Voilà. Donc, va intervenir sur la généalogie et certaines anecdotes liées à la Vigerie, au cardinal, sachant que nous, la transmission s'est faite de manière orale et par donc les uns les autres, et donc on a des souvenirs que nous ont transmis notre arrière-grand-père essentiellement. Notre maman, et qui sont des souvenirs souvent évoqués. Et puis on avait notre père, donc qui s'était marié avec notre maman, qui descendait de la famille Latrille, et qui nous parlait toujours du le cardinal. Il nous disait le cardinal, ceci, sur des faits de société, de tous les jours, des faits de tous les jours, et il faisait souvent référence au cardinal de la Vigerie en disant. Et je réinterviendrai juste après Yves, brièvement, parce que certains le savent, mais pas tout le monde. On a une autre attache forte avec le cardinal de la Vigerie, familialement, mais je vous expliquerai pourquoi tout de suite après.
Yves, on va vous écouter dans cette transmission fraternelle de micro.
Bonjour à toutes et tous. Puis je rejoins les remerciements de mon frère, mais je ne vais pas les répéter. Ça ne sert strictement à rien. Donc, souvenir et légende d'une partie de sa famille, parce que nous sommes une partie de sa famille. Et je remets quelques photos qu'on a eues dans notre jeunesse. On les voyait. Donc, à différentes époques de sa vie, hein, bien entendu. Et puis, souvenirs et légendes, pourquoi ? Parce que les souvenirs, c'est des gens qui nous ont transmis ces souvenirs, et puis nous, on les reconstruit. Hein. Donc, ça peut faire partie d'une légende aussi. Alors, la diapositive suivante, c'est le cardinal de la Vigerie. Autre point, avant de rentrer un peu dans le dur, c'est-à-dire l'arbre généalogique, sa maison familiale que certains d'entre vous ont vue cet après-midi, il y a quelques heures. Hein. Alors, Un peu de généalogie, parce que tout s'explique, ou presque, par la généalogie. Et je vais vous montrer, en fait, l'arbre généalogique, bien sûr, avec tout en haut, Pierre Latrille et Rose Agnès Fourticot, dont nous avons vu la tombe tout à l'heure. Hein, puisque c'est vrai que les femmes sont d'un côté, sur la pierre, hein, et de l'autre côté, il y a plus d'hommes. Bon. Alors, ça, ce sont les ancêtres qui ont généré envers les trois sœurs Latrille. En fait, il y en avait quatre. Mais pourquoi j'ai mis trois? Parce qu'elles elles impactent la famille. Le cardinal, lui, il est là. D'accord? Donc, ses parents, ils sont ici. Ah, mais vous ne voyez pas? Si? Là, le Pierre Latrille, Rose Fourticot. Et ici, vous avez le cardinal avec ses parents, dont une des trois sœurs, Latrille. Une autre. Je l'indique parce que je vais en parler tout à l'heure, parce que l'histoire est un peu compliquée et il y a plein de faits. Et puis ça, c'est notre ancêtre à nous, direct, hein, qui est enterré à Saint-Étienne et qui a épousé Théophile de Ginca, qui est notre ancêtre direct. Hein. Donc voilà la partie de Ginca où j'ai pratiquement tous les descendants. Vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup. Là, j'ai fait aussi un peu d'études généalogiques. Bon, puis ça va pas très loin, finalement. Et puis, beaucoup sont perdus. Donc, voilà le lien qui nous relie. Alors, Pierre Latrille et Agnès Fourticot venaient de quelque part. Pierre Latrille, lui, c'est un Bayonnais. Alors, né, baptisé, décédé à Saint-Esprit. Et il était directeur de la monnaie de Bayonne. Ça a été rappelé ce matin. Hein, c'était une époque où Bayonne avait le droit de battre monnaie. Et ce n'était pas partout le cas en France. Rose Agnès Fourticot, donc son épouse, était née à Pau et est décédée à Saint-Esprit. Et elle est inhumée en Bayonne, comme on dit. Alors, le Pierre Latrille et Rose Fourticot, évidemment, ils avaient des parents. Je les cite parce que c'est en fait l'origine. Le père, donc l'arrière-grand-père du cardinal, était né vers 1720 à Vialaire. Manque de chance, les registres de Vialaire, il y a une année qui manque, c'est l'année 1920, bien entendu. Et il est décédé à Bayonne, il est enterré à Bayonne, il était forgeron d'origine et maître fondeur à la monnaie de Bayonne. Donc on voit en fait la lignée de ce côté-là, qui était lié à la forge et à la monnaie. Sa mère, peu d'informations, elle était née à Pau. Rose Agnès Fourticot, alors c'est le père de Rose Agnès Fourticot, était né à Gannes, famille d'apothicaires et de médecins. Et bon, ils ont vécu à Pau. Et sa mère, alors là, il y a une ambiguïté, mais c'est pas très grave, elle serait née à Paris. Et elle est décédée à Pau. Et bien entendu, elle est enterrée à Pau. Voilà la mère donc du cardinal, hein, Louise Hermine Laure, Latrille, qui est née en 1800. Elle est née à Bayonne. Et elle a eu deux sœurs, dont notre ancêtre, hein, qui est Louise Léonie Cécile Latrille, qui est née en 1814. Elle n'est pas née à Bayonne, elle est née à Bordeaux. Pourquoi? Ben parce qu'en 1814, à Bayonne, c'était pas forcément terrible. Il y avait des combats très importants. Donc c'est pour ça que ses parents avaient migré vers Bordeaux, et elle est née là-bas. Son mari, donc mon arrière-arrière-grand-père, j'en ai sauté aussi. Lui était né en 1810 à Bayonne, hein, et est mort en 1882. Là, je ne sais pas trop où. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que ces deux portraits, ils ont été faits par Bernard Romain Julien, qui est un artiste peintre bayonnais et qui est aussi le beau-frère de... Bah, alors, Léon Bonnard, je ne sais plus trop. Oui, oui. Alors, en fait, c'était le beau-frère donc de la mère du cardinal. Et donc, il était l'oncle du cardinal. Donc, en fait, la famille était relativement liée. Alors, je passe à... On a vu la maison de naissance du cardinal. Voilà notre maison de famille actuelle. Enfin, elle a un peu changé, qui est à Peille, où, semble-t-il, le cardinal a passé quelques années. Alors, je vais donner juste deux anecdotes hein, qui me sont revenues, que je tiens directement de mon arrière-grand-père. Quand il est décédé, le dernier été où j'étais avec lui, j'avais 12 ans. Donc c'est des souvenirs d'un gamin de 12 ans ou d'un ado de 12 ans. Et ces souvenirs, en fait, c'est parce que le dimanche, on avait le droit de prendre le dessert avec les adultes. Et notre arrière-grand-père, dans ces cas-là, donnait quelques idées. Alors, c'est du conditionnel, bien sûr. Quelqu'un de la famille aurait dit au cardinal, vous allez monter directement au paradis. Il aurait répondu, j'espère pas, parce que passer le reste de ma vie avec des gens parfaits, ça doit être passablement embêtant ou ennuyeux. Alors ça, c'est une première anecdote. Une deuxième anecdote qui circulait dans la famille, alors c'était que le cardinal Lavigerie aurait pu devenir pape. Alors ça, à l'époque, ça s'est propagé. Moi, je l'ai entendu plusieurs fois. Il ne faut jamais oublier qu'à l'époque, un pape non romain, enfin non italien, bon, à part il y a très longtemps, c'était jamais arrivé. Et puis de toute façon, il est mort avant Léon XIII, hein, qui était le pape actuel. Donc voilà les deux petites anecdotes.
C'est historique. Ses ennemis l'accusaient de... Sœur Cécile, elle sait beaucoup plus que moi. Ses ennemis l'accusaient d'essayer de prendre la place de pape quand à plusieurs reprises. Il était beaucoup à Rome, en cours. Et ça repose sur quelque chose qui est assez historique.
Donc ce n'est pas un fantasme familial ou une légende familiale. Ça aurait pu. Voilà.
On passe de la légende à l'histoire, quand même.
Oui, oui. Voilà. Donc... Très brièvement, en 1876, donc il avait 16 ans quand le cardinal est décédé. Donc il avait lui aussi des souvenirs d'adolescent, mais adolescent un peu plus vieux. Et après, ses autres frères étaient beaucoup plus jeunes que lui, donc ils n'ont pas dû connaître le cardinal. Lui, oui, c'est sûr. Christian, je te laisse sur cette maison et le doute.
En vous rappelant que je suis le maître des horloges et que nous avons plusieurs interventions derrière, pour l'instant, on est très bien. On est très bien. Restez dans la cadence, vous êtes parfait.
Je vais être très bref. Je sais. Et juste sur cette maison, donc la chambre où il aurait séjourné, c'était au cours des deux dernières années de sa vie. Quand il venait à Cambo se reposer. Voilà. Oui, pour conclure sur la famille, je voulais évoquer une de mes filles. J'ai trois enfants, deux filles. Une de mes filles qui s'appelle Pauline et qui, après un début de carrière comme diplomate du développement auprès du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, donc français, dans le cadre de ses activités, elle est allée au Sénégal, en Éthiopie, donc pour le ministère des Affaires étrangères, au Bénin, au Chili, au Pérou, en France et en Belgique auprès de la communauté européenne. Et puis, elle a quitté le ministère pour aller travailler pour une agence de l'État qui s'appelle Expertise France. J'étais chez elle, je ne vous dis pas où exactement, j'étais chez elle en vacances et elle préparait le discours du ministre, de la ministre de la Culture de ce pays qui devait intervenir le lendemain. Et elle me lit, elle me dit, est-ce que je peux te lire ce que j'ai préparé, parce que si tu vois des petites choses qui ne vont pas, tu me le dis, je corrige. Donc elle me le lit, et arrivée à la quatrième ou cinquième phrase, je lui dis, Pauline, tu peux t'arrêter ? Qu'est-ce que relis la phrase que tu viens de me lire. Et elle évoque le cardinal Lavigerie. Et je lui dis, mais Pauline, tu sais que le cardinal Lavigerie, c'est notre famille. Et là, elle s'est arrêtée, les larmes aux yeux, et elle me dit, mais c'est pas possible ce que tu me dis, papa. En fait, on était à Tunis, et elle a été nommée à Tunis pour piloter le robot du Musée national de Carthage. Donc elle y est depuis 6 ans, et elle travaille là-dessus, sans savoir que le cardinal était de notre famille. On parlait tout à l'heure de la transmission orale. J'en parlais avec mon frère encore dans la voiture tout à l'heure. On entendait parler du cardinal Alger, là où il a commencé son là où il est décédé. Donc on entendait parler de l'Alger, d'Alger. On entendait parler de l'Afrique, jamais de la Tunisie. Yves n'en a pas le souvenir, moi non plus, ma fille encore moins, et je lui dis, mais le cardinal Lavigerie, dans la maison donc, qu'on a vue avant, sur le piano, tu sais, il y a une gravure dans un cadre, c'est lui. On l'a tous vu toute notre enfance. Ma fille, pareil, elle a 40 ans maintenant. Voilà, donc elle pilote actuellement la rénovation du musée de Carthage. Étonnant. Un profane, et je...
Et rendez-vous de l'histoire.
Par là, un profane, c'est le hasard. C'est pas de chance. C'est la chance qui a fait, excusez-moi, c'est le hasard, coïncidence, pure coïncidence. Et un soir où on était chez Cécile, sœur Cécile, donc au couvent de Tunis, elle nous avait invités avec les autres sœurs à dîner. C'était il y a très peu de temps, il y a un mois. Et là, sœur Cécile me dit, non, c'est sûrement la Providence. Et donc, il y a certainement un peu des deux. Donc, chacun y verra les raisons pour lesquelles Pauline pilote la rénovation créée par quelqu'un de sa famille. Voilà.
Merci de ces témoignages très jolis, très humains.
On va mettre USB alors.
Et il est toujours rassurant d'entendre des gens qui ont travaillé sur l'histoire avoir l'humilité de temps en temps d'accorder un peu de place à la Providence. Je dis ça parce que c'est l'ancien journaliste qui s'exprime. Lorsqu'on aborde le domaine de l'expertise, on a toujours l'impression d'avoir face à soi des hommes et des femmes qui maîtrisent le tenant et l'aboutissant de tous les faits qu'ils nous comptent. Et puis, de temps en temps, il faut bien accepter l'idée selon laquelle la Providence fait aussi son travail et que les faits historiques s'y soumettent comme les autres. On va maintenant recevoir Étienne Rousseau-Poteau qui, lui, va parler plus particulièrement, en historien qu'il est, du parcours du cardinal Lavigerie, dont le bon que l'on puisse dire, c'est qu'il ne peut que passionner un historien. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de monolithique.
Et un baïonnet.
Et il n'a rien de tracé. C'est quasiment un roman. Il est haletant de découvrir la vie de cet homme. Donc, je vous donne la parole, Étienne.
Merci Yves, merci messieurs de nous avoir parlé avec beaucoup de cœur de cette famille. Qui est, alors, il y a beaucoup de discussions pour savoir si les Bayonnais ou Landais, c'est tout un débat pour la... Alors je vous ai mis ici la statue célèbre que beaucoup de gens maintenant ne savent pas très bien qui c'est quand ils passent à Bayonne en sortant de la gare et en traversant le pont. Et je vous ai mis aussi une des trois faces du monument qui va être restaurée, donc, que nous a annoncé Yves et M. Etchegaray aussi. Ce monument grandiose, hein, avec une phrase. Alors, il y a plusieurs phrases. Il y en a une autre qui est un petit peu plus difficile aujourd'hui dans, en temps de décolonisation, mais celle-là est formidable, puisque vive Dieu, il ne dit plus de nous que la traite africaine continue à déshonorer l'humanité. Discours sur l'esclavage. Nous avons, quand on arrive de la gare de Bayonne, si on s'approche du monument, on voit cette phrase célèbre. Et à gauche, l'une des dernières photos du cardinal, une des plus belles photos du cardinal ici. Ça, c'est là, quand on est sous la statue, donc sur le monument, pardon, on voit donc les armes du cardinal, je vous montrerai tout à l'heure, avec l'inscription. Alors nous avons fait une grande visite avec les frères et les sœurs, donc ils connaissent ça très bien. Et au cardinal, on voit qu'on a rajouté Charles Martial Lavigerie, 1825-1892, la ville de Bayonne, ses amis, ses admirateurs. Voilà, c'est le don donc de cette statue en souvenir du grand homme qui était à l'époque, il y avait grand. Et c'était le peintre Léon Bonnat et le cardinal Lavigerie. Et Sœur Cécile nous a beaucoup parlé de ce livre que j'ai pris cette photo ici, quelques étages au-dessus de la médiathèque, parce qu'il y a une très belle bibliothèque à propos du cardinal Lavigerie dans les réserves de la médiathèque de Bayonne. Donc le premier livre très important sur Lavigerie en deux tomes, c'est le Monseigneur Bonnard, hein, qui était... C'était une prélature de personnelle, hein, ça, il n'a jamais été évêque quelque part, qui a fait, donc lui il avait connu beaucoup de témoins, et c'est un livre vraiment essentiel pour connaître Bonnat et pour connaître Lavigerie, et en particulier l'enfance de Lavigerie, puisque lui il a pu reconnaître, il était de la même génération. Hein. Voilà, ça c'est le Monseigneur Bonnard. Ce livre est paru, la première édition était en 1888, donc avant le décès de Lavigerie, qui est mort en 1892, comme vous l'aviez vu. Hein. Et alors, je me suis amusé aussi à mettre ce document-là, qui est dans notre médiathèque de Bayonne, où un monsieur Daru veut absolument prouver que Lavigerie n'est pas du tout... Enfin, c'est avant tout un Landais, parce que la famille aurait eu des terres dans les Landes. En plus, quand il est né au Boucau, quand il est né à Saint-Esprit, pardon, à côté du Boucau, mais à Saint-Esprit, c'était dans les Landes. Jusqu'en 1857, d'où ces pages intéressantes à lire où il va prouver en 1926 que Lavigerie est bien un Landais, mais c'est aussi un Angoumoisin, et c'est aussi, par sa mère, vous l'avez vu dans l'arbre généalogique montré, c'est aussi un Béarnais. Et voilà le document qui est partout aujourd'hui, qui est un dessin qui a été perdu et qui montre la maison natale donc de... Tout à l'heure, on a vu une photo un peu plus récente. Donc, on voit la rune ici et la maison natale, le Huir. Hein. Et ça, c'est de la main de Lavigerie. Maison de Huir appartenant à M. Latry, mon grand-père, où je suis né le 31 octobre 1825. Mais ce dessin a été perdu et on pense qu'il était dû au fameux Romain Julien, donc, dont vous avez vu des portraits aussi. Voilà. Il a été édité dans un livre de 1940 sur le cardinal Lavigerie, qui est moins connu, qui est très illustré par contre, d'un père blanc, un père Cussac. Je vous montre aussi, pour vous, surtout pour ceux qui ne connaissent pas bien Bayonne, tous les frères et sœurs qui sont là depuis hier, la ville de Bayonne. Alors là, c'est pas exactement au moment de la naissance de Lavigerie, c'est un tableau d'Hélène Feuillet, mais ce qu'on peut remarquer, c'est que la cathédrale n'est pas encore transformée et modernisée, elle n'a pas ses deux flèches, elle a juste une tour au sud, qui était comparée parfois à un magnon. Par contre, c'est un peu plus tardif que la naissance de Lavigerie, parce qu'on voit déjà l'église Saint-André et ses deux flèches, qui a été construite dans les années 1850-1860. Mais lui, il a connu vraiment ce port très actif dans toute son enfance. Il faut se rappeler qu'il traversait, quand il allait au collège, il traversait ce pont tous les jours. Hein, c'est un relativement grand trajet. Voilà. Dans la maison Huir, elle était dans un quartier qu'on appelait le quartier Saint-Bernard, au bord de la Dour, sur la rive droite, loin en allant vers l'embouchure, avec un monastère de bénédictines. Dans le livre de Bonnard, il se trompe, il dit que c'est des cisterciennes, mais en fait, c'était des bénédictines. Vous voyez, il y a un dessin ici. Saint-Bernard. Alors ça a vraiment pratiquement disparu. Mais du temps de la Vigerie, c'était encore assez important. Voilà une autre gravure de Saint-Bernard. Là, on reconnaît la cathédrale de Bayonne en arrière-plan. Et c'était des zones totalement où il y avait très peu de fermes. En fait, mais aussi ces bénédictines qui ont disparu au début du 19e siècle. Voilà l'église aujourd'hui Saint-Bernard, qui est art déco plutôt, et les seuls, alors ça je ne sais pas si c'est conservé, mais je ne les ai jamais vus en fait. Elles sont intégrées dans le. Je ne les ai jamais vus, voilà, c'est les seuls restes de. Il y avait beaucoup de couvents à Bayonne, et tous quasiment ont disparu. Enfin, il y avait beaucoup de cloîtres. C'est un petit peu dommage. Alors dans le petit fascicule qu'a préparé sur Cécile et Michel, il y a l'acte de naissance donc de la Vigerie. C'est toujours intéressant de les voir avec tous ces prénoms. Ça c'est. Et ce qui est curieux, c'est qu'on a l'impression qu'ici c'est un prénom allemand, alors que son père aussi s'appelait allemand la Vigerie. Il y a beaucoup de mystères à cette époque sur les noms doubles. Mais bon, on n'est pas là pour faire tous les détails là-dessus. Et puis, donc ça, je ne vais pas reprendre. Je ne savais pas ce qu'avait préparé messieurs Lecointe, donc je ne vais pas reprendre sur sa mère. Par contre, moi, j'avais fait un arbre généalogique, puisque j'ai travaillé sur Léon Bonnat, notre peintre bien-aimé, puisqu'on ouvre en plus son musée fabuleux. Et j'avais travaillé sur lui pour faire un roman historique. Et donc là, vous voyez... la Vigerie, ses parents, dont on vous a beaucoup parlé, les sœurs, les frères de ses parents, ses oncles et tantes, la tante Louise, qui était mariée donc à ce peintre Romain Julien, maître de Bonnat, et qui a accueilli la Vigerie à Paris. Quand il était allé à Paris, il allait beaucoup dans cette famille, mais Bonnat aussi. Donc il y a des liens très forts en fait entre Bonnat et la Vigerie. Et voilà justement cette tante Anne Latry ou Félicie Latry, qui est née à Bayonne, mais je n'ai pas sa date de mort. Et son mari, donc Monsieur Sarvi, était le frère de la mère de Bonnat, c'est-à-dire que c'est un oncle de Bonnat. Voilà, ici la famille Sarvi, on arrive à Léon Bonnat, le deuxième fils de cette famille. Alors, il y a beaucoup de frères et sœurs, Léon Bonnat, ici, mais on comprend mieux les liens entre donc Romain Julien, le dessinateur, très très grand portraitiste, professeur à Bayonne et maître de Bonnat, et la grande proximité de ce Romain Julien avec Charles Lavigerie. Voilà. D'ailleurs, au musée Bonnat, on peut voir un portrait de l'oncle qui était marié à Mademoiselle Latrille, donc tante de la Vigerie. C'est Joseph Sarvi, oncle de Bonnat, par Bonnat. Il y a plusieurs. Alors là, ça, c'est une photo que j'ai prise dans les sites des sœurs et pères blancs. Il y a pas mal de documents qu'on va trouver maintenant sur Internet. Voilà la maison Huire avec... ça, c'est la photo que avait montrée la famille Lecointe. Mais surtout, quelqu'un a mis la chambre où est née la Vigerie. Hein, Charles Vigerie, le 31 octobre 1825. Là, dans le cadastre, on voit... ça, c'est le cadastre de 1800. On voit Saint-Bernard, les collèges des bénédictins. Si on allait vers là, on aurait Saint-Esprit. Et vous voyez qu'il y a très peu de fermes à l'époque dans toutes ces Barthes, hein, ici. Et c'est même pas marqué Huire, c'est marqué Heure. C'est marqué Huire à partir de 1831. Vous voyez la propriété. Alors, il ne reste que ces deux maisons. Et tout à l'heure, je suis passé, en fait, en revenant du cimetière, et je suis tombé sur un monsieur qui me disait, mais oui, les sœurs, leur maison qui était là, assez grande, dont je me souviens assez bien, en fait, il y avait une grande allée de platanes, a été détruite, et maintenant, vous avez un grand lotissement, et elle a la rue des Sœurs Blanches, pour ça. Mais de la maison natale, il ne reste absolument que ces deux bâtiments. Il n'était pas né dans la grande maison, en fait. C'est assez curieux. On ne sait pas pourquoi. Il était né dans une des petites maisons à côté. Et voilà ce que c'est aujourd'hui. C'est une photo que j'ai prise d'ailleurs aujourd'hui. Alors la fenêtre serait là. Cette maison, les gens qui la possèdent aujourd'hui ont marqué Huire. Hein. C'est l'endroit où est né le grand cardinal. Et il est baptisé ensuite à l'église Saint-Esprit. Ça, c'est une gravure ancienne. Parce que j'ai choisi cette gravure parce qu'il y avait beaucoup de maisons tout autour. Et aujourd'hui, à Saint-Esprit, il y a un narthex que vous avez vu ce matin à la messe, qui a été construit au 19e siècle seulement. Mais c'était une église intégrée dans un milieu urbain. Tout ça a été détruit à cause de la gare et du parvis de la gare. Hein. Et voilà ce que c'était ici. Vous voyez comme c'était dense. Alors, là, c'est la rue Maubec. Tout ça, c'était les rues avec les populations juive hein, de Bayonne. On en a parlé ce matin quand on a visité avec les frères et sœurs. Ça, c'est le cadastre de 1800. Vous voyez que ça commence à se construire davantage en 1831. Il y a eu beaucoup de... La ville a augmenté de population hein, au 19e siècle hein, de façon importante. Ça, c'est les fonts baptismaux. Alors, je ne sais pas si ce sont les vrais. Ils existent toujours à Saint-Esprit. C'est Michel Gara. Ce n'est pas tout à fait les mêmes. Mais c'est le même endroit, j'ai l'impression. Non, c'est même pas le même endroit. Alors, je me trompe. Et je n'ai pas, on n'a pas l'acte de baptême de la Vigerie, c'est pour moi une énigme, parce qu'on sait que le curé de Saint-Esprit a envoyé une photo de cet acte de baptême en Afrique, à la Vigerie, mais on ne sait pas où il est. Quant au registre des baptêmes de Saint-Esprit, ça commence en 1830 et pas en 1825. Mais il y a un répertoire plus ancien, où on voit dans ce répertoire par ordre alphabétique, la Vigerie, Charles, et curieusement, il y a marqué baptême le 17 novembre, alors que tous les textes disent que c'est le 5 novembre. Donc, nous voulons savoir si c'est le 5 ou le 17, et qui sont les parrains et marraines, toujours très important pour quelqu'un de savoir. Donc, on va chercher les frères et les pères m'ont dit qu'ils allaient, les sœurs, qu'ils allaient chercher à Rome, parce que cette photo qui était en Afrique, elle doit être quelque part. Et moi, de mon côté, l'abbé Bétia de l'évêché m'a dit « Allez voir à Dax, puisqu'on est entre les Landes et Bayonne. » Voilà. Là, j'ai mis cette photo pour vous montrer la deuxième maison de la Vigerie. À partir de l'âge, on ne sait pas exactement, entre 8 et 10 ans, il quitte Huire, parce que c'est acheté par d'autres personnes. Bon, voilà, là, c'était là qu'était Huire. Et le père construit une maison ici. Alors là, en 1800, elle n'y est pas parce qu'elle n'est pas construite, tout simplement. Donc, c'est dans ce chemin qui s'appelle aujourd'hui chemin de l'église Saint-Étienne. Hein. Voilà, vous avez le quartier Saint-Étienne. Ça monte, c'est assez. Mais on a de très belles vues des maisons. Hein. Et ça, c'est la maison familiale de Bona. Et en l'autre cadastre, en 1831, on voit donc Beaulieu, la maison construite par monsieur Lavigerie. Léon Lavigerie a construit cette propriété. Et Monoudet, c'est les grands-parents, toute la famille de Bona. Il y a d'autres maisons des familles de Bona. Et en fait, les deux garçons se voyaient beaucoup. Sauf que Lavigerie avait quand même 6 ans de plus que le petit Bona. Mais ça lui a laissé, ça l'a beaucoup marqué. Les anecdotes sur le fait qu'ils disent la messe. Alors, c'est à mon avis plutôt dans cette maison qu'à Huire. Il faisait venir tout le personnel, les parents, enfin, que tout le monde soit là. Et il disait la messe enfant. Hein, de façon. Il fallait qu'on soit, c'était très important. Et un jour, il a dit à des jeunes missionnaires, je crois que tout le monde, si c'est pas au Liban ou en Algérie, qui n'arrivaient pas à bien dire la messe rapidement. Il leur dit, mais vous savez, moi, je savais déjà dire la messe à 6 ans. Il avait des phrases comme ça, très... Voilà. Donc ça, cette propriété existe toujours. Ça, c'est les collines, justement, où il y avait... Tout ça, c'est l'église Saint-Étienne. Vous voyez la cathédrale, la citadelle et... tous ces quartiers qui étaient encore très agrestes dans ce début du 19e siècle. Voilà la maison Beaulieu qui existe absolument dans son état. Ça, c'est dans le livre de Cussac. Voilà, maison située sur la paroisse de Saint-Étienne d'Arribe-Labourg. Voilà, ça, c'est une photo ancienne. Et aujourd'hui, donc, il y a l'entrée marquée Beaulieu. Il y a marqué toujours, ça fait plusieurs fois que j'y vais, il y a toujours marqué « interdit de rentrer, mais je rentre », comme tous les historiens. Et puis, je vois que j'appelle désespérément, personne ne répond. Donc, je rentre prendre des photos. Ça, c'était il y a quelques années. Ça, c'était tout à l'heure, d'ailleurs, cet après-midi, parce que je voulais des photos avec le ciel bleu. Et de là, on avait une très belle vue sur la Dour, sur les montagnes, qui a certainement marqué le cardinal. Comme toujours, les lieux sont très, très importants pour nous. Tout à l'heure, nous sommes passés devant la fontaine, donc célèbre pour l'anecdote du fait que dans son enthousiasme, après avoir été formé par les deux servantes, Jeannette et Marianne, il voulait convertir tout le monde. Donc, il faisait venir des petits garçons là et il les plongeait dans l'eau. Il les baptisait. Donc, enfant, c'est très célèbre. Ceci dit, la fontaine n'avait pas du tout cet aspect. Elle a été refaite à la fin du 19e siècle. La fontaine Saint-Esprit, toutes les maisons autour sont les fameuses maisons des négociants juifs. J'ai expliqué ce matin qu'il y avait aussi un mikvé, la synagogue. Il a beaucoup été dans ce milieu un peu exotique. Alors, on l'inscrit ensuite au collège Saint-Léon, à la pension Saint-Léon d'un laïc qui s'appelait Monsieur Bratt, mais qui était entouré d'ecclésiastiques pour la formation. C'est le collège qu'a aussi fréquenté Léon Bonnat, quelques années après, qui est ensuite devenu Saint-Louis de Gonzague. Parmi vous, ici, il y a des personnes qui y ont été, hein, certainement. Et alors, ça, c'était le couvent des Augustiniens, hein, ou des Augustins. Voilà. Mais le bâtiment qu'a connu, le bâtiment actuel a été très reconstruit. Mais c'est là qu'il a donc fait sa première communion dans la chapelle de cet endroit qui a été transformé. Là, c'est une photo une gravure d'environ 1900. On voit la cathédrale finie, on voit le bâtiment qui existe aujourd'hui. Quant à la cathédrale, c'est là qu'il a fait sa confirmation. Hein. C'est important, vous le verrez. Ça, c'est le bâtiment actuel, totalement refait vers 1900. La chapelle ici, du collège Saint-Louis de Gonzague, qui est toujours un établissement qui s'appelle le Guichot. Là, la cathédrale qu'a connue la Vigerie, c'est celle-là, avant les restaurations. Hein, vous voyez, il y avait toujours la quatrième galerie du cloître qui a été détruite après 1880 pour faire la chapelle, la sacristie que nous avons vue. On a pu voir, monsieur le recteur nous a permis de rentrer, voir le portail avec ses statues du XIIIe siècle. Vous voyez que ça, par exemple, il y a de très grandes fenêtres aujourd'hui. La toiture est en très mauvais état et il y a deux flèches maintenant. Mais ça, c'est la cathédrale où allait la Vigerie quand il était plus jeune. Voilà, vous voyez, c'est des photos. Alors là, il y a déjà, c'est plus tardif, puisqu'il y a déjà les travaux de transformation de notre cathédrale de Bayonne. Et la personne qui a joué un grand rôle dans la vie de la Vigerie, c'est donc Monseigneur Lacroix. Hein, c'est lui qui a été son directeur spirituel. Voilà, il a été quand même pendant 40 ans l'évêque de Bayonne au cœur du 19e siècle. Alors, à l'époque, il y avait énormément de conflits à l'intérieur de l'église française. Lui, la Vigerie était plutôt gallicaniste. Et il s'opposait aux ultramontanistes. Tout ça est à lire dans des documents. C'est assez compliqué. Et puis donc, c'est Monseigneur Lacroix et surtout un certain abbé Franchistegui du collège Saint-Léon qui fait part donc de son désir d'être prêtre. Et on a déjà évoqué le fait qu'il a été dans ces bâtiments ici, là, quand on est passé ce matin. Il a été donc voir l'évêque dans un salon, il raconte avec des tentures. Son père l'amène là en lui disant est-ce qu'il veut vraiment. Et il dit je veux être curé de campagne. Son père lui dit mais tu connais pas la campagne. En fait, si. Mais il voulait être curé d'un petit village, avoir une petite. Pas du tout le destin qui s'est préparé, universel en quelque sorte. Hein. Voilà. Donc on l'envoie d'abord au petit séminaire de La Ressort, qui est maintenant un monument historique, qui est donc assez bien restauré. La chapelle, alors j'étais assez frappé de voir que la chapelle a été terminée en 1840 et il arrive en octobre 1840 au petit séminaire où il y a eu des professeurs assez prestigieux au cours du 19e siècle dans ce très beau bâtiment qui a une vue sur les montagnes. Voilà, ça c'est maintenant, ce sont des habitations parce que. Ensuite, il y a eu un autre petit séminaire à Ustaritz, un très, très beau bâtiment art déco. Voilà la somptueuse chapelle. Donc, il a été là pendant un an. C'est pour ça que je voulais absolument avoir le PowerPoint pour montrer surtout aux frères et sœurs de Rome et de partout, d'Afrique, de Tunis, ces images des lieux où on n'a pas été forcément. Mais aujourd'hui, c'est plutôt un auditorium puisqu'il y a la chapelle de la Ressort est une autre église. Mais on imagine quand même l'époque, la splendeur de l'époque pour des petits séminaires. Et alors après, je vais juste résumer en parlant surtout de quelques personnalités proches de la Vigerie et bayonnaise. J'ai encore un petit peu de temps. En particulier, voilà, vous savez qu'on a une rue de Ravignan à Bayonne, près derrière l'église Saint-André, et une grande famille où il y a eu des jésuites, plusieurs d'ailleurs, même au XXe siècle. Et Xavier de Ravignan, un personnage très important, donc né à Bayonne en 1795, fils du maire, alors il s'appelait en fait Delacroix de Ravignan, il était jésuite, et à Paris, il est devenu le directeur de conscience de la Vigerie, et c'est un Bayonnais, c'est pas un hasard quand même, il se rapproche de cet homme, et c'est lui, c'est Ravignan le Bayonnais, qui l'a fait nommer directeur de l'œuvre des écoles d'Orient, ce qui est le destin de la Vigerie, qui donc part alors qu'il était professeur à la Sorbonne, il part au Liban, à un moment où il y a eu des massacres épouvantables, 40 000 morts au moins, entre c'était les Druzes et des musulmans qui avaient assassiné les Maronites et les chrétiens, donc on envoyait beaucoup d'argent. C'est la Vigerie, je dis ça parce qu'aujourd'hui on parle toujours du Proche-Orient, mais il y a longtemps que ça dure. C'est très important. Voilà. Et c'est, on ne sait pas exactement quand Léon Bonnat, dont il y a un autoportrait ici, qui est au musée d'Orsay, Léon Bonnat en 1855, il a peint son ami et aîné, en quelque sorte, la Vigerie dans un grand portrait, vous voyez, qui fait 1,60 m de haut. Et c'est la Vigerie barbue. Donc on ne sait pas si c'est fait à Rome, puisqu'il a été ensuite à Rome, et Bonnat y était aussi. Ce tableau, vous ne pourrez pas le voir dans le musée Bonnat dans un mois, parce qu'il sera en réserve. Il n'y a pas encore. Il y a trop de tableaux au musée Bonnat, mais vous pourrez peut-être demander à le voir. Donc il est habillé avec le costume de la rote romaine. En fait, il n'était pas très juriste, il n'aimait pas trop ça, mais il avait accepté ce poste, et ce n'était pas son destin, puisque son destin, c'était... Donc voilà, ça, j'ai mis aussi son arrivée au Liban, puisque quand il arrive au Liban, et à Damas, et à Beyrouth, il est accompagné par un docteur Joléry, qui est en fait... qui a été ensuite maire de Biarritz, qui est un de ses grands amis d'enfance et de collège. Voilà. Je voulais vous montrer qu'il y a pas mal de liens quand même, hein, entre les deux. Donc voilà, ce texte qui raconte cette arrivée. Ensuite, ça ne marche plus mon truc là. Ah, j'ai peut-être plus de pile. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est l'ordinateur qui a... Non, attendez. Oui, c'est l'ordinateur qui... Il y a une prise. On m'a dit qu'il n'y a plus de batterie.
Voilà. Autant les connexions peuvent effectivement trouver solution, mais la batterie, ça va être autre chose.
Non, il n'y en a pas. Si, parce que je voulais vous montrer surtout l'histoire de la statue. Mais mon ordinateur, on a vu que ça ne marchait pas bien. Vous n'avez pas apporté votre... Oh, flûte, alors. Bon, mais du coup, j'ai beaucoup. Enfin, moi, je voulais quand même. J'avais préparé deux autres dossiers. Un sur le centenaire, et c'est ça que je regrette de ne pas vous montrer, parce que les photos du centenaire à la mairie, c'est absolument. Ben, ça remarche. Ah bon, parfait. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, batterie faible. Mais... Alors, la maison de Jaoléry, c'est cette magnifique maison, le docteur Jaoléry, qui a été maire, donc, sous le Second Empire, de Biarritz. Et quand il venait à Biarritz, la Vigerie venait chez lui, chez cet ami d'enfance, Jaoléry. Hein. C'est ça, à mon avis, qu'il n'y a plus de piles. Je peux changer comment ? Alors, moi, j'appuie, mais ça ne marche pas, lui. Il faut le vrai mettre. Ah, d'accord. Voilà la maison aujourd'hui, à côté du couvent des Dominicains Saint-Joseph. Elle vient d'être restaurée. Donc c'est là qu'il venait se reposer, parce qu'il a eu grand plaisir à venir au Pays Basque, hein, souvent. Voilà. Il est venu aussi voir Napoléon III au palais. Et on sait qu'il a eu des liens importants pour demander essentiellement de l'argent et des lois. Hein. Mais ça, il faut le lire en détail. Voilà. Dans ces dernières années, il devait beaucoup faire des cures. Il faisait des cours dans toute l'Europe, en fait. Des cures, il était quand même très fragile, notre grand colosse. Et il est beaucoup venu à Cambo-les-Bains, donc dans ces termes-là, dont on a parlé tout à l'heure, puisque la famille. Je voulais dire aussi que parmi ses amis d'ici, il y avait Francis Jam, qu'il admirait énormément et qui a fait un petit livre historique sur lui, qui a été très discuté. Et effectivement, je l'ai lu et c'est pas très réussi, surtout que c'est plein d'erreurs historiques. Mais j'aime beaucoup Francis Jam, d'autant que...
Mais il était poète, hein.
Il était poète avant tout, alors en histoire, c'est pas très... Non, mais c'est un livre qui a été très critiqué à l'époque. M'a dit la petite fille de Francis Jam, Mireille, qui m'a envoyé ses photos de sa tante, donc la fille de Francis Jam, qui est devenue... Parmi vous, il y a plusieurs sœurs qui l'ont connue. Sœur Maïtena, elle s'appelait Françoise Jam, fille du poète Francis Jam. Et ça, c'est certaines d'entre vous ont assisté au jubilé ici des 65 ans de vie religieuse à Cambo, puisqu'elle était Arditeia. Voilà un autre lien avec le Pays Basque. Le cimetière, évidemment, mais ça, les tombes. Ça, c'est la tombe il y a 5 ans. Et aujourd'hui, magnifiquement restaurée grâce aux Pères Blancs qui ont demandé à ce qu'elle soit restaurée. Mais il n'y a pas la Vigerie ici. C'est sa mère, son père, beaucoup de cousins. Voilà. Ça, c'est une plaque qui marquait la restauration en 1955. C'est son... Oui, ça, si, Pierre Latrillier.
Non, c'est pas son
Ah, c'est le grand-père. Bon, excusez-moi. Alors, juste à côté, il y a des familles. Ça, c'est la famille à restaurer de Léon Bonnat, qui sont les cousins donc, des. C'est le cimetière Saint-Étienne. Ça, c'est la tombe de Bonnat. Tout à l'heure, on nous a parlé du musée. Donc, la tombe de la Vigerie, au départ, elle était dans la cathédrale Saint-Louis, et qui est sécularisée aujourd'hui. Où on fait des mariages, enfin, des dîners, hein, des conférences. Ma mère y a été jouer de l'orgue autrefois. Je parle des années 30. Hein.
Ça, le signal.
Bon, en tout cas, j'aurais voulu vous parler aussi de la statue. La statue, donc, ce monument extraordinaire, il y en a trois exemplaires, en fait. Il y en a un qui est à Toulouse, au musée des Augustins, qui est en plâtre. Ça a été commandé, dit-on, par Bonnat, au sculpteur et ami Alexandre Falguière, qui était toulousain. Donc, on voit la même statue où la Vigerie est en évêque de Nancy. C'est pour ça qu'il a la croix de Lorraine. Et c'est paradoxal parce qu'elle date quand même d'une époque où il était déjà cardinal. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ça, ce geste extraordinaire? Et sur les trois faces, en fait, il y a donc, on a déjà vu l'hommage des bâillonnés à la Vigerie. On a vu la phrase des droits de l'esclavage, mais il y a aussi une phrase qui pose un peu plus de problème, c'est une phrase de Gambetta de 1882 qui dit, elle est très connue cette phrase, avec la Vigerie, il remplace un corps d'armée pour la conquête de la Tunisie. Alors c'est bien parce qu'il était effectivement complètement non-violent, la Vigerie. Il avait demandé que l'Algérie, c'est lui qui a obtenu que l'Algérie ne soit plus gérée par l'armée. Pendant 30 à 40 ans, l'Algérie était complètement dominée par... Et lui, il voulait justement davantage de respect des populations. Il voulait que tous les pères blancs parlent l'arabe. Et là, je ne me souviens plus ce qu'il y a sur la troisième, parce que la quatrième face, il y a une autre phrase, mais je la chercherai, on va peut-être continuer. Voilà. Et cette statue-là, donc il y en avait une à Biskra, qui est une ville à l'entrée du Sahara ou en Algérie, qui était fondée par les pères blancs complètement pour pouvoir aller vers l'Algérie. Et cette statue, elle a été déplacée dans le cimetière, elle existe. Mais il y en avait d'autres qui ne sont pas la même que celle de Bayonne. La plus belle, c'est celle de Bayonne. Il y en avait à Tunis, et sur la place. Alors celle-là, elle a évidemment été enlevée parce qu'elle était à l'entrée de la Médina. Et j'avais lu qu'elle avait été décortiquée. Et récemment, je suis tombé sur un site tunisien qui dit qu'elle a été mise à Carthage. Mais il lui manque son bras. Est-ce que c'est vrai, sœur Cécile? Non, alors c'est faux, hein, et donc c'est dans Internet, il faut se méfier. Voilà. Quant à celle d'Alger, il a perdu un bras aussi, mais parce que ça devient un symbole de colonisation absolument important. Voilà. Et donc pour le centenaire, je vais peut-être. J'ai encore une minute. Est-ce que je vais lire un texte sur. Mais peut-être qu'on peut parler d'autre chose entre temps, non?
Non, on ne va pas faire l'intermède, on va aller au bout de.
Je vais vous faire passer, je crois que j'avais photo. J'ai une photo de cet événement. Vous allez voir.
On va la faire passer. On peut peut-être mettre de la lumière, du coup. Vous allez voir le Grand Théâtre de Bayonne le 14 ou 15 décembre 1925, avec sur la scène du théâtre des évêques, des chefs d'ordre religieux, Léon Bérard, ministre, le maire Garat, qui lui était quand même pas si proche des catholiques, mais qui avait accepté, et un décor extraordinaire, avec une sorte de cathédrale gothique, et au milieu de ce décor extraordinaire, vous avez la statue, la Vigerie. Hein, voilà. Et bien, il y a beaucoup d'autres photos de ça, en particulier au Monument aux Morts, et surtout non, plutôt à la statue de la Vigerie dans la mairie, à la cathédrale qui était immensément illuminée, et on a tous les textes des discours qui ont été faits pour ce centenaire.
Peut-être c'est l'occasion pour moi de vous rappeler que nous sommes dans le cadre là du
théâtre italien. Ah oui.
Avec 1400 fauteuils. Enfin, en l'occurrence, c'est un mensonge puisque il y en avait en fait 1100, et ensuite il fallait se placer. C'est le cas de le dire, au paradis, puisque c'est le mot consacré, c'est-à-dire debout dans des conditions de confort très, très discutables. Mais les amateurs de lyrique en particulier se contentaient largement du paradis, parce que bien sûr les notes délicates leur parvenaient. On sait que le public de Bayonne était particulièrement ingrat. Voilà.
Alors, sans images, donc la Côte Basque de décembre 1925. Bayonne a célébré mardi dernier, comme il convenait, la gloire si pure et si haute du cardinal Lavigerie. En glorifiant la mémoire de l'apôtre qui fut à la fois le premier colon d'Algérie, entre guillemets, et le chef de la croisade contre l'esclavage, toujours, hein, notre ville a vu s'unir devant l'une des plus nobles figures de notre histoire contemporaine, les représentants des confessions et des opinions les plus diverses, avec le même élan, le même sentiment de vénération. 10h du matin, messe pontificale, chantée par Monseigneur Chenlong, archevêque de Sens. Ça, je ne savais pas que ça se disait, messe chantée par l'archevêque, plutôt que dite. Hein. Et M. Garat, député, maire de Bayonne, Léon Bérard, député des Basses-Pyrénées, municipalité, conseil municipal, etc., etc. Et donc, il y a des pages de... Enfin, c'est toute la journée d'énormes fêtes. Et le compositeur Herman Bonal, qui fait de la musique, on dirait la musique dans la cathédrale, la veille, il y avait eu un concert au Grand Séminaire. Je vous ai montré le Grand Séminaire, qui était encore assez neuf à l'époque et qui est le conservatoire aujourd'hui. Et donc, avec beaucoup de chants, y compris du bac, la maîtrise du Grand Séminaire, on dit qu'elle était très réputée. Voilà, tout ça autour, avec les Pères Blancs, bien sûr. Et M. Léon Bérard conclura la série par une de ses allocutions qui fut un régal pour les lettrés, causerie pleine de verve et d'esprit qui émerveilla tout l'auditoire. L'orchestre d'Herman Bonal était très bien, et on joue du Beethoven, du Fauré. Et vous pourrez, donc, il y a les homélies, les discours dans le bulletin diocésain. Mais comme j'ai plus d'images et que j'ai parlé trop longtemps, je vais écrire un article de tout ça dans le bulletin de la Société des sciences lettres et arts de Bayonne, où j'écris de temps en temps. Ça restera comme ça, ce travail de recherche.
Et qu'on ne manquera pas d'adresser, bien entendu, à nos hôtes de ce soir, ça va s'en dire, pour boucler la boucle en quelque sorte. Merci Étienne, beaucoup de travail encore une fois. Et beaucoup d'enthousiasme dans ses recherches. Je ne le dirai jamais assez. Ah, on aurait bien avoir. Tous, on aurait bien aimé avoir des professeurs qui savent donner autant de verve à ce qui peut de temps en temps être un peu plus sec en matière historique. On va demander à Sœur Angela de bien vouloir me rejoindre. Ma sœur, s'il vous plaît, vous faites le chemin et ensuite... Voilà, vous vous asseyez à côté de moi, je vous en prie. Étienne va vous tendre le micro, on va faire les choses très simplement. J'ai trouvé, vous gardez le micro bien près de votre bouche surtout, pour qu'on puisse se faire entendre. Le moment qu'on a passé hier à table, en particulier, m'a bien entendu inspiré quelques questions que je vais vous poser, parce que j'ai senti de votre part une forme d'émotion à être à Bayonne pendant ces quelques jours. Je l'ai lu dans vos yeux et je l'ai lu dans les mots que vous avez employés, même si vous le faites avec beaucoup de sobriété, avec une humilité d'ailleurs qui ne se justifie pas forcément parce que vous parlez très très bien le français. Oui, oui. Et donc, on va être très à l'aise pour entrer tout de suite dans le vif du sujet. Une première question sur, parce qu'alors on a beaucoup parlé de personnages écrasants d'histoire, sur ce que cet homme, aujourd'hui, dans votre actualité, dans votre engagement d'aujourd'hui, sur ce que cet homme a pu peser, y compris d'ailleurs dans la façon dont vous êtes vous-même engagé sur ce terrain, sur cette forme de spiritualité à travers la congrégation. Qu'est-ce qu'il y a d'actuel et de présent dans cet homme qui est écrasé d'histoire, comme on l'a vu ? Vous sembliez me dire hier qu'il était toujours aussi actuel, en quelque sorte.
Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Cette question est très profonde. Je vais essayer de parler le français comme vous attendez. Je ne suis pas francophone, mais je vais essayer. Alors, pour parler la vie spirituelle de notre fondateur, Cardinal Lavigerie, on le trouve dans tous les enseignements qu'il a donnés aux missionnaires. Et ce qui m'a frappé très fort depuis le début, même avant de fonder notre congrégation, j'ai dit qu'il avait déjà écrit les instructions. Comment est-ce qu'on s'est formé? Alors, pour commencer notre congrégation, l'Institut des Pères Blancs et Sœurs Blanches, il a choisi la spiritualité ignatienne. Et j'étais touchée quand je lisais son histoire. qu'il était très familier avec la spiritualité franciscaine. Mais il a choisi Ignatien. J'ai dit, pourquoi? Parce qu'il est basque ou quoi? Bon, alors tout à l'heure, on a entendu un monsieur Étienne qui a dit qu'il avait son ami, le père jésuite, savait. Je pense qu'il avait une influence de cela. Mais après, plus tard, j'ai compris que la Vigélie a choisi la spiritualité ignatienne parce que lui-même, il était une personne très attachée au Christ. Mais avec ça, il était très pratique. Et puis, il a distingué, malgré que notre spiritualité, moi je vais appeler aujourd'hui spiritualité la vigérienne, si je peux oser dire ça, ça a évolué avec la spiritualité ignatienne. Mais il a mis son accent sur être apôtre. Et pour lui, il a mis trois aspects qui sont très importants en tant qu'apôtre. La première, il disait que c'est le but de notre vocation apostolique. La deuxième, il disait que le Christ doit être le centre de tout. Et la troisième, c'est laisser transformer soi-même pour que tu sois être un instrument partout où on t'envoie. Alors, ça, c'était lié avec le choix, l'obéissance pour la Vigélie, c'était très important. L'obéissance pour être envoyé. Et plus tard, elle a aussi donné quelques caractères, les aspects d'une apôtre. Et c'est là où j'ai trouvé la définition pour être missionnaire pour nous. Alors, la première chose, elle a dit, le premier aspect, l'apôtre doit être celui qui se donne totalement au Dieu, sans les œuvres, sans compter le coût, hein, comment on appelle ça le coût? Le prix, sans compter le prix. Et ça, on le voit dans sa vie. Il a donné sa vie, je pense même sa vie, sa santé était affectée, de façon qu'elle s'est donnée elle-même. La deuxième, elle disait que l'apôtre, c'est lui qui n'a pas, qui ne fait pas le compromis. Il n'y a pas un millier, ni si tu fais, tu le fais 100%. C'est comme dans l'évangile, il ne faut pas être tiède. Il faut être avec le feu pour le Seigneur. Et puis, la dernière chose, il a dit que l'apôtre, ça doit être celui qui désire la sainteté avec persévérance, courage et fidèle. Et avec ça, je vais être très court. Je peux dire pour moi et pour nous, les missionnaires d'âme d'Afrique, les missionnaires d'Afrique, la spiritualité que le cardinal Lavigée nous a laissée aujourd'hui, c'est être unis intimement avec le Christ d'abord, être disponible pour la mission et puis inspiré par la tradition là où nous sommes. Il nous disait, là où vous étiez envoyé, il faut apprendre la langue, la culture, la tradition, manger comme les gens, habiller comme les gens, là où vous êtes. La simplicité, parce que c'est là-bas où vous allez partager la vie au quotidien et faire connaître le Christ. Alors, je peux dire pour moi, la Vigélie, la sainteté s'était réalisée dans la mission elle-même. De façon que nous vivons la mission, c'est défini par notre vie spirituelle, par notre connexion avec le Christ. Nous sommes les héritiers aujourd'hui. Une chose, il a appris de Saint Ignace, fais les magis, fais beaucoup pour le Seigneur. Mais ce n'est pas pour le Seigneur, mais pour son peuple. Ce que je peux dire aujourd'hui, la Vigélie, c'est un homme très, très profond dans sa relation avec le Christ, mais très réalistique. Un homme qui est pour la mission et qui se donne 100%, mais aussi il était visionnaire. Si nous sommes là aujourd'hui, grâce à sa formation, sa foi qu'il a partagée avec nous. J'espère que j'ai répondu à votre question.
Je dirais que
Elle semble bien mineure, ma question. Vous l'avez totalement écrasé dans votre témoignage. Mais je vais quand même revenir à ce que je vous disais préalablement, parce que vous nous avez emporté sur des terrains particulièrement ambitieux. Vous, à titre personnel, vous faites allusion au tout début de votre propos à des instructions. Et c'est un mot que j'ai beaucoup entendu hier aussi lorsqu'on a échangé. Est-ce que ce mot est compatible avec une forme de liberté d'action pour ce qui vous regarde? Est-ce qu'à titre personnel, le fait de suivre toujours des instructions, est-ce que ce fait-là vous a quand même laissé des espaces de liberté d'entreprendre, d'aller vers des chemins qui vous correspondent? La liberté dans tout ça, quand on suit autant d'instructions.
Oui, il a donné les instructions, mais nous avons un exemple concret. Une sœur Blanche qui a vécu avec lui depuis le début, notre mère Marie Salomé. Il donnait les instructions, mais elle a bien compris le charisme que la Vigile a reçu. Elle aussi nous a donné les instructions encore. Alors ça nous aide beaucoup, mais ça nous laisse beaucoup la liberté. Parce que le secret dans toutes les instructions que la Vigilie donnait à nous, les missionnaires, pas seulement nous les femmes, mais aussi nos frères, les missionnaires d'Afrique, c'est toujours, ils répètent peut-être la même chose, toujours s'attacher au Christ pour être envoyé en mission. Il était très clair. Alors, comme je disais tout à l'heure, là où vous êtes libre d'être missionnaire parmi les gens que Dieu vous envoie, mais en même temps, rappelez-vous que vous êtes missionnaire, vous n'êtes pas les touristes. Ça, c'est une des instructions qu'elle nous a données. Mais nous sommes partout dans le monde.
La réponse est parfaite. Elle est particulièrement édifiante sur la capacité qu'on peut avoir, si ce n'est à contourner des instructions. Il n'est pas question de les contourner. Mais par contre, d'y saisir les espaces de liberté que le cardinal vous a laissés dans vos actions. Et j'imagine que dans les situations que vous vivez, que vous avez vécues, il est important aussi d'avoir une capacité personnelle d'entreprendre, de réagir. Il faut prendre des décisions quelquefois et donc puiser aussi dans son espace de liberté personnelle. Tout ça n'est pas incompatible et vous nous l'avez très bien expliqué. Merci, ma sœur.
Merci.
Père Aloysius, je vais vous demander de me rejoindre aussi. Alors, voilà, vous le rejoignez dans les conditions que vous voulez. On fait les choses très simplement ici. La sœur peut rester en place sans difficulté. Elle va vous tendre le micro, par contre, puisque nous n'en avons que deux. Et je le partagerai, le mien, avec sœur Angela, si elle veut ajouter quoi que ce soit, parce qu'il n'est pas question que j'entame sa liberté à cette heure-ci. Hein. Je ne me permettrai aucune instruction pour ce qui me regarde. Au père, en mot... Un mot concernant encore un autre témoignage aussi, de la façon dont on peut suivre un exemple dont on pourrait penser qu'il est classé dans l'histoire. Mais on se rend compte qu'à travers tout ce qu'on a pu entendre de ses engagements en particulier, cet homme est d'une actualité incroyable. Sujet après sujet, y compris en macro-politique aujourd'hui, on se raccroche toujours à ce qu'il a pu vivre, défendre, à ses doutes aussi, parce qu'il a douté. J'aimerais avoir votre avis sur ces questions-là et surtout sur le ressort qui vous a conduit à vous, à titre plus personnel, à vous engager dans la voie du cardinal.
Merci beaucoup. J'étais invité à vous partager les défis de notre mission aujourd'hui, ainsi que de nos engagements communs avec les sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique, les sœurs Blanche. Je présenterai d'abord ces défis en 12 points, et cela à partir de mon expérience missionnaire. Le premier défi, c'est la question d'insécurité. Elle se retrouve dans les zones de guerre comme au Soudan, Nos confrères ont dû fuir le pays, abandonnant leur poste de mission qui a été vandalisé. Certains paroissiens ont perdu la vie, d'autres ont fui, tandis que d'autres encore sont dispersés à travers Khartoum, la capitale du pays. L'insécurité est également causée par les activités terroristes ou rebelles, par l'extrémisme religieux, qui ont entraîné des pertes de vies humaines et de biens, les déplacements des populations, l'enlèvement des personnes à des fins lucratives. Certains de nos confrères ont été enlevés au Mali et au Nigeria, et nous avons été obligés d'abandonner certaines missions au Mali. Cette situation a créé la peur chez nos confrères. Il n'est donc pas facile de les nommer dans certaines zones d'insécurité. Il y a aussi certaines situations de conflit entre les pays où nous avons des communautés des deux côtés, avec les confrères vivant ensemble, mais originaires des pays belligérants. Ceci étant, certains ne peuvent pas rendre visite à leur famille en raison d'insécurité. L'insécurité crée d'autres défis, notamment l'accompagnement des personnes déplacées internes, des réfugiés, des veuves et des orphelins. Cela favorise la traite des êtres humains et augmente le nombre de personnes ayant des troubles psychologiques. Nous rencontrons de tels cas dans nos missions et souvent nous n'avons pas la capacité d'aider ces personnes de façon adéquate. Deuxième, la multiplication des églises et des mouvements religieux. Certains d'entre eux sont agressifs envers l'Église catholique. D'autres sont des entreprises lucratives, offrant ainsi une mauvaise image de toutes les églises, tandis que d'autres sont des instruments utilisés par les politiciens pour servir leurs intérêts. Ces mouvements religieux créent beaucoup de confusion, surtout chez les jeunes. Troisième, le personnel. La société diminue d'environ 20 confrères chaque année. Nous sommes donc moins nombreux, mais les demandes pour plus de missionnaires augmentent. La majorité des missionnaires actifs sont jeunes et ils ont donc une expérience limitée, mais on leur confie pourtant des responsabilités importantes dans la mission. La formation des missionnaires est longue et nécessite des formateurs et des moyens financiers. De nombreux ministères spécialisés exigent une préparation académique et une responsabilisation de nos membres par le biais d'une formation continue. 4. L'instabilité des systèmes politiques, des relations avec des dirigeants politiques. Certains systèmes politiques sont ouvertement opposés à l'Église et nous empêche de poursuivre notre mission. Bon nombre de fidèles attendent de nous que nous les guidions dans leur quête de bonne gouvernance et que nous les soutenions dans leur lutte contre les abus du pouvoir politique et les violations des droits de l'homme. 5. Les centres urbains en pleine croissance. Ils sont multiculturels, multiethniques, multilingue. Les gens y sont constamment en mouvement et fortement influencés par les moyens de communication modernes. Il est donc difficile d'assurer le suivi des individus et des communautés. 6. Politique migratoire et mobilité humaine. De par notre vocation missionnaire, nous nous déplaçons régulièrement pour rejoindre les postes où nous sommes envoyés. Les frais de visa ne cessent d'augmenter dans la plupart des pays. Certains pays n'accordent pas de visa aux ressortissants de certains pays. Dans d'autres, l'obtention d'un visa prend parfois beaucoup de temps, jusqu'à un an d'attente, ce qui est décourageant, surtout pour les jeunes confrères. Dans certains pays, il existe des sentiments d'animosité contre certaines nationalités qui font que les confrères qui en sont originaires vivent dans la peur pour leur vie. L'Afrique n'est plus juste un continent géographique, mais une bonne partie de sa population vit ailleurs. D'où le défi de servir le vaste monde africain. C'est le défi de la mondialisation et de ses effets. 7. Les finances. Notre société missionnaire au service de l'Église en Afrique a beaucoup bénéficié de la générosité de l'Europe et de l'Amérique du Nord. L'Église en Afrique est encore loin d'être autonome, alors que le soutien de l'Europe et de l'Amérique du Nord a considérablement diminué. Nous réfléchissons sérieusement à la manière dont nous allons continuer à financer notre mission en Afrique aujourd'hui. Les situations financières complexes en Afrique soulèvent des questions de justice et paix sur le continent. Parfois, nous nous sentons impuissants face à de telles situations. Le chômage augmente, en particulier chez les jeunes, ce qui les pousse à tenter désespérément de fuir vers l'Europe et l'Amérique par les moyens à eux deux, en s'adonnant parfois à des pratiques immorales pour survivre. Dans certains cas, nous sommes confrontés au syndrome de dépendance. Les gens refusent de changer de leur mentalité d'assistant et sont donc toujours à la recherche des missionnaires qui pourraient les soutenir matériellement. 8. Les catastrophes naturelles et épidémies. Les inondations dues à des pluies excessives d'une part et de longues périodes de sécheresse d'autre part rythment les saisons. Celles-ci ont détruit des vies, forcé des personnes à abandonner leur maison et leurs moyens de subsistance. L'exploitation des ressources naturelles a conduit à la dégradation de l'environnement, à la destruction des forêts naturelles et à la pollution des eaux. Nous sommes appelés à relever le défi de prendre soin de notre maison commune. 9. La formation de nos candidats. Nous avons plus ou moins 500 candidats en formation, ce qui occupe un nombre considérable de nos confrères en tant que formateurs et engendre des dépenses financières importantes. Nous sommes également confrontés au défi de l'évolution des besoins pastoraux, ce qui nécessite l'adaptation de notre formation pour mieux y répondre. Les nouvelles insertions missionnaires en Europe, en Asie et en Amérique. Elles demandent de nos confrères une adaptation à de nouvelles réalités en dehors de nos zones pastorales traditionnelles. Cela implique aussi un changement de paradigme. En effet, l'Europe, l'Asie et l'Amérique s'adaptent à cette nouvelle réalité de redevenir des territoires de mission. 11. Le dialogue interreligieux. La réalité contemporaine, en lien avec notre charisme, nous met au centre du dialogue avec les autres religions, en particulier avec l'islam, souvent associé à tort avec l'extrémisme violent. Ouvrant surtout sur le continent africain, nous respectons et entrons également en dialogue avec les religions traditionnelles africaines dans notre mission d'évangélisation. Dans certaines localités, nous avons des communautés chrétiennes dont les membres sont persécutés ou constamment menacés, voire assassinés pour les motifs religieux. Nous avons le devoir périlleux d'accompagner ces communautés éprouvées. 12. Accompagnement de nos confrères et consœurs aînés. Une grande partie de nos confrères et consœurs sont retraités, âgés et fragiles de santé. Il faut leur offrir un accompagnement fraternel qui respecte leur dignité jusqu'au bout. La majorité d'entre eux restent fidèles à leur vocation missionnelle et se donne à la prière pour la mission. Mais malheureusement, certains perdent l'espérance et même leur foi. Cela rend l'accompagnement pénible et difficile. En conclusion de cette première partie, je dirais, tous ces défis ne diminuent en rien notre enthousiasme à répondre à la mission que nous a confiée l'Église en réponse au charisme que nous a légué le cardinal Lavigéry. Il y a beaucoup de générosité parmi les confrères et les consoeurs, un grand désir de vivre la mission de Christ en Afrique, dans le monde africain et partout où notre charisme est sollicité. Au terme de cette année sainte, nous raffirmons notre espérance. Pour ceux qui regardent la collaboration avec les sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique, tout au long de l'existence de nos deux instituts, nous avons souvent travaillé ensemble, partageant les tâches dans les mêmes postes missionnaires. Ces dernières années, nous avons décidé de collaborer à de nouveaux projets communs. Nous pouvons notamment citer les projets suivants. Premier, la formation continue de nos membres qui comprend les sessions en commun à Rome et à Lykov que nous faisons avec d'autres congrégations. Deuxième, la célébration ensemble des 150 ans de la fondation de nos instituts, que nous avons vécu ensemble de 2018 jusqu'en 2019. À la suite de cette célébration, nous avons lancé un projet commun dans les diocèses d'Arua, dans le nord de l'Ouganda, pour venir en aide aux réfugiés du Soudan du Sud. Quatre confrères et quatre sœurs y travaillent ensemble depuis 2020. Troisième, à la suite de nos derniers chapitres généreux, nous avons décidé de partager notre charisme avec les laïcs. Ce projet que nous réalisons ensemble est en phase de concrétisation. Quatrième, la célébration du bicentenaire de la naissance de notre fondateur, le cardinal Lavigéry, que nous clôturons ce jour-ci, a été un projet commun vécu ensemble aux différents niveaux de nos instituts. Ce pèlerinage à Bayonne, lieu de naissance de notre fondateur, est le résultat de cette collaboration. D'un point de vue spirituel, nous pouvons évoquer le pèlerinage commun à la porte sainte de la basilique Saint-Pierre de Rome et à la retraite annuelle que les deux conseils généreux viennent d'achever près de Rome. Une retraite commune animée par un père et une sœur. Merci beaucoup.
Merci. Père. Une intervention particulièrement riche d'informations et à travers les informations aussi de prise de conscience pour ceux qui verraient les choses un peu plus loin ici sur les difficultés que vous traversez, mais aussi, et ça transpire de tous vos propos, l'espérance qui ne vous lâche jamais, et cette forme de s'ouvrir que quelquefois nous vous envions en traversant des situations infiniment plus confortables. Je ne voudrais surtout pas accaparer la parole, et par conséquent, si vous avez des choses à dire, profitons de ces quelques minutes qui nous sont encore offertes. Si ce n'est pas le cas, de façon plus informelle, on pourra continuer, bien sûr, à converser. Hein. Mais si des questions... vous taraude, c'est le moment ou jamais, bien sûr, de lever le doigt et je tendrai mon micro. Si ce n'est pas le cas, on va considérer que nous aurons respecté exactement à quelques minutes près la temporalité qui nous était assignée. Donc je félicite les intervenants pour le souci qu'ils ont eu de garder aussi, à l'esprit, la nécessité de résumer, de ramasser leurs propos, en quelque sorte. Beaucoup d'informations nous sont venues aussi, et donc il va falloir qu'on les distille, qu'on réfléchisse à tout ça, et qu'on se rende compte qu'en définitive, le cardinal de la Vigéry, eh bien, il vient nous parler à nous aussi. Et c'est à travers vous qu'il vient nous poser des questions essentielles. Et il y a donc, si vous me permettez cette petite conclusion, qui sera certainement l'esprit du papier que je commettrai demain, il y a cette forme de rebond absolument inattendu de l'histoire autour du cardinal qui fait que son histoire, en particulier africaine, vient aujourd'hui nous mettre devant des questionnements, qui sont véritablement d'actualité en termes de prise de conscience de beaucoup de problématiques qui nous assaillent. C'est l'élu qui vous parle aussi. Et donc, il y a quelque chose de très perturbant dans le questionnement lavigérien, si je puis m'exprimer ainsi, qui fait que c'est dans sa ville natale ce soir qu'il vient peut-être nous interroger en premier sur des questionnements qui, eux, sont votre actualité et toute la force de votre engagement. Et donc, on ne se retire pas d'une soirée comme ça en spectateur, on s'en retire touché, ému, interpellé aussi dans nos engagements respectifs les uns et les autres. Donc je voudrais dire au nom de toutes et tous d'ici, les locaux, si je puis dire, merci aussi à la congrégation qui a su se mobiliser autour de ce merveilleux moment qu'est l'anniversaire. Mais sachez que nous nous retirons de tout cela, et c'est pas fini, loin s'en faut, avec beaucoup de questions pour nous aussi. Et pour ceux qui en douteraient encore, il n'y a bien sûr pas de frontières lorsqu'il s'agit de poser ces questionnements essentiels pour l'avenir de l'homme et l'idée qu'on s'en fait. On ne peut pas partager une espérance et mettre des cloisons inutiles ou des frontières inutiles dans le raisonnement. Et c'est ça la force aussi du propos du cardinal que je n'en finis pas de lire depuis avant-hier à travers les instructions dont vous m'avez parlé. Et c'est sur cette instruction de concision que je vais en rester là. Et je vous dis merci de votre présence. Elle nous fait chaud au cœur. Ma sœur, vous voulez dire un petit mot ? Avec plaisir.
Avant de finir, est-ce que je peux dire, moi ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais appeler peut-être le père Stan. J'ai parlé de la vie spirituelle, de la vie, cardinal Lavigérie. Il nous disait toujours, pour une grande mission que vous allez faire, j'ai besoin des saintes et des saints. Alors, pour cela aussi, toute cette année, on était accompagnés par ces paroles spirituelles pour nous accompagner toute l'année. Alors, on a une petite chose pour la famille, pour vous peut-être, et pour M. Étienne. Je vais... Preston, vous pouvez m'aider s'il vous plaît? On appelait ça une année avec cardinal Lavigérie. Alors, on voulait aussi partager avec vous.